France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer, Sacha Mattei et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique c'est Mineta Diawara. À l'approche des élections municipales en France, on vous propose le deuxième volet d'une série que nous avions commencé début janvier sur les villes contre l'État. Après New York, Istanbul et Bologne, on évoque cette semaine Hong Kong, Buenos Aires, la ville du Cap en Afrique du Sud, mais d'abord Budapest en Hongrie, avec un maire qui casse les codes de l'urbanisme, Gergely Karácsony versus Viktor Orbán. La bataille politique s'est jouée notamment l'année dernière autour de l'organisation d'une marche des fiertés LGBT.
Je voudrais rappeler que pour notre gouvernement, la protection de l'enfance est une priorité. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter une loi contre la tenue de la Pride de Budapest et que nous allons financer le système de protection de l'enfance.
Si vous commencez à interdire des événements comme la marche des fiertés dans un pays membre de l'Union européenne, alors aucun citoyen européen n'est à l'abri. Aujourd'hui, grâce à notre rassemblement, grâce à vous tous, nous avons fait de Budapest la capitale de l'Europe.
Un arc-en-ciel déferle dans les rues de Budapest aujourd'hui. Et le message est sans équivoque. Les centaines de personnes qui se sont réunies pour la Pride de Budapest transforment le centre-ville en une place forte de défiance envers le gouvernement et sa législation.
En juin dernier, 200 000 personnes avaient défilé dans les rues de Budapest et scandé en chœur « La liberté et l'amour ne peuvent pas être interdits » en soutien aux personnes LGBT. Le message était bien passé de venir en nombre pour que ni la police ni les caméras de vidéosurveillance ne sachent où donner de la tête et que ne puisse être appliquée une loi votée 3 mois plus tôt qui fait encourir l'équivalent de 500 euros d'amende à toute personne participant à une marche des fiertés. Ce grand rassemblement avait été encouragé par le maire de Budapest qui fait depuis l'objet de poursuites judiciaires. Depuis sa première élection en 2019, Gergely Karácsony est devenu l'un des principaux opposants au pouvoir de Viktor Orbán par son ADN politique, écologiste et social, mais aussi par l'importance du poste qu'il occupe. Car être maire de Budapest, c'est administrer près de 2 millions d'habitants sur les 9,5 millions que compte le pays, c'est compter dans son périmètre les rues les plus symboliques et nécessairement politiques du pays, de l'avenue Andrassy, les Champs-Élysées hongrois en passant par la place Kossuth, siège du Parlement. C'est également exercer un droit de regard sur le cœur de l'économie du pays. Autant de raisons qui poussent le Premier ministre Viktor Orbán et son parti, le Fidesz, y compris sa branche locale, à faire pression par tous les moyens possibles. Comment l'État, contrôlé par le Fidesz, a-t-il peu à peu rogné sur les compétences de la municipalité pour tenter de conserver le contrôle sur Budapest? Et comment riposte la municipalité? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Paul Gradvol.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous appelle en général à Budapest, mais vous êtes en ce moment à Varsovie, ce qui ne change rien pour nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je vous remercie d'être avec nous, ainsi que vous, Ambre Brunto. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio de Culture Monde. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je remercie le journaliste indépendant basé à Budapest, Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe Centrale, de nous avoir fait connaître votre travail très précis sur la politique hongroise en ce moment et en particulier cette ville de Budapest que vous connaissez bien, ainsi que son maire, Ambre Brunto. D'abord, quand on parle aujourd'hui de l'opposition hongroise à Viktor Orbán, c'est plutôt la figure de Péter Magyar qu'on évoque, candidat pour les prochaines législatives. Est-ce que le maire de Budapest, Gergely Karácsony, est-ce qu'il est du même bois que Péter Magyar? Qu'est-ce qui les rassemble éventuellement au-delà de leur opposition à Viktor Orbán?
Oui, c'est deux figures principales de l'opposition, que ce soit Péter Magyar ou Gergely Karácsony, mais qui ne jouent pas exactement les mêmes cartes en ce moment dans la politique nationale. Là où Péter Magyar travaille beaucoup pour les législatives qui arrivent donc en avril, Karácsony est une figure de l'opposition qui a tout de même été majeur, hein. Il a été député pendant quelques années, mais qui aujourd'hui s'est concentre plutôt ses efforts sur la politique locale, et notamment dans ce conflit particulièrement saillant contre l'État. Ce qui peut rassembler Petr Magyar et Gergely Karácsony, c'est Viktor Orbán, finalement, et cette opposition et cette volonté d'essayer de le renverser lors des prochaines législatives. En revanche, sur les lignes politiques, ce ne sont pas du tout les mêmes. Et là où Petr Magyar a une ligne plutôt à droite, de centre-droit, vous l'avez rappelé au début, Karácsony a une ligne plutôt écologiste, plutôt de gauche. Et ça se montre dans beaucoup de politiques publiques qu'il peut mener par ailleurs.
Voilà, ils ne sont pas du même parti. Le parti de Petr Magyar, le parti TISA, d'ailleurs, est présent à Budapest. Est-ce qu'il fait partie de la coalition municipale ou il est dans l'opposition?
Non, la répartition des sièges à Budapest, il y a 10 sièges pour TISA, donc le parti de Petr Magyar, 10 sièges pour le Fidesz, et ensuite le reste de l'opposition est un peu éclaté entre quelques partis, ce qui pose des questions, enfin ce qui pose des problèmes particulièrement pour le maire de Budapest qui n'a donc pas de majorité.
Alors est-ce qu'on peut dire, Paul Gradvol, que Petr Magyar, candidat aux prochaines législatives en Hongrie qui approchent, hein, qui sont vraiment, je crois, dans 2-3 semaines, et le maire de Budapest aujourd'hui se partagent les tâches en quelque sorte dans leur opposition à Viktor Orbán?
Alors, on peut le dire en précisant une chose. En fait, Petr Magyar n'existait pas politiquement il y a 2 ans et demi. Alors que, comme on l'a vu, Gergely Karácsony, lui, est maire depuis 2019 et a un passé politique réel. Donc on est en face à 2 temporalités essentielles. Et ce qui est frappant, c'est que jusqu'à présent, ces dernières années, donc la ville de Budapest était le pôle principal de résistance à l'emprise de Orbán. En fait, l'agglomération de Budapest était le seul endroit où la Fidesz n'avait pas réussi à gagner massivement, en général, les élections pendant des années. Et donc, il y avait une tache sur la carte électorale de la Hongrie au milieu. Et puis, avec l'arrivée de Petr Magyar, on est dans une situation totalement inédite depuis 2019, où il y a un parti d'opposition, le sien, qui n'a rien à voir avec Karácsony, qui domine pour l'instant dans les sondages. Alors, les sondages sont les sondages, mais c'est la première fois que ça arrive, et ça rend un peu hystérique Orbán d'ailleurs, que dans les sondages, Orbán a 15 points de retard environ aujourd'hui, alors que les élections sont le 12 avril.
Donc c'est une situation assez inédite d'ailleurs en Hongrie depuis que Viktor Orbán est au pouvoir depuis 2010.
Voilà. Et donc, cette affaire de temporalité est intéressante parce que pour les Budapestois, et heureusement les élections législatives ne sont pas en même temps que les élections municipales, hein, ça, il y aura une marge, on verra comment ça se réorganise. Mais je pense que une bonne partie des Budapestois qui ont voté Karácsony, c'est ce qui se voit dans les sondages, vont voter pour Petr Magyar, qui non seulement est candidat aux législatives, mais il est candidat au poste de Premier ministre. Parce que, en Hongrie, les présidentielles n'ont aucun rapport avec les présidentielles françaises. L'homme qui tient le gouvernement, c'est l'homme qui est désigné par le président avec une marge d'influence du président de la République égale à 0.
Donc 2 échelles aujourd'hui pour lire les scores, l'avancée de l'opposition en Hongrie. Alors à Budapest c'est particulier, Budapest est une ville particulière par définition par rapport au reste de la Hongrie, avec ce maire donc Gergely Karácsony sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, une figure politique présente de longue date dans le paysage politique hongrois, contrairement à Petr Magyar. Il a été élu d'abord en 2014 maire du 13e arrondissement de Budapest, puis député. Il a accédé au poste de maire en 2019 avec un peu plus de 50% des voix.
J'ai souligné pendant la campagne que je ne suis pas le candidat de l'opposition, mais celui des Budapestois face aux gens du pouvoir. La vie politique depuis près de 10 ans était dominée par le Fidesz, qui, en ayant la majorité des 2/3, a éliminé tout contre-pouvoir, à la Cour constitutionnelle jusqu'au sein des médias indépendants, et limité le champ d'action des municipalités. Au cours des 9 dernières années, Budapest a été la grande perdante de ces changements. J'ai axé ma campagne sur le fait que je représente la volonté des Budapestois de s'opposer au gouvernement. Notre principal mot d'ordre, c'était d'incarner le pouvoir des gens plutôt que les gens de pouvoir.
Gergely Karácsony, en 2019, après sa première victoire à la municipalité de Budapest, je précise pour les auditeurs et auditrices qui voudront plus tard faire des recherches sur ce maire que ça s'écrit Karácsony. Donc voilà, on dit Gergely Karácsony, qui défend, donc on l'entend, Brunto, une politique écologique et sociale. Avec le recul, après 7 années de mandat, est-ce que c'est bel et bien ce à quoi il s'emploie, en dépit des obstacles qu'on va prendre le temps de détailler? Mais d'abord, peut-être un tableau assez général sur la politique sociale, notamment, qu'il entend mener à Budapest.
Oui, mais il y a beaucoup d'obstacles. Je pense que ça prend beaucoup le dessus sur ce qu'il aimerait faire. Le problème, c'est que l'état des finances publiques actuellement de la ville sont tellement chaotiques. Enfin, je veux dire, ils n'arrivent même pas à savoir s'ils vont pouvoir payer leurs salariés, leurs employés à la fin de chaque mois. Donc là, en ce moment, les politiques publiques, enfin, c'est un peu compliqué d'avoir ne serait-ce que du recul et ça dure depuis plusieurs années. Effectivement, il y a des actions qui ont été menées, que ce soit pour les transports, pour reverdir aussi la ville, des logements sociaux, etc. Mais c'est particulièrement compliqué au vu du nombre d'obstacles qui se mettent constamment en travers de sa route, et en particulier financiers.
Sur les logements sociaux, un petit mot à ce sujet. Budapest est la ville où s'observe apparemment la plus la plus forte hausse en Europe aujourd'hui, le prix des loyers à Budapest. À quel niveau ont-ils atteint ces loyers? À peu près. Oui, en tout cas, il y a vraiment une hausse qui est due à quoi?
Oui, qui est due à beaucoup de choses. Enfin, le prix des loyers, après, c'est quelque chose qu'on observe aussi en Europe de façon très générale. Dû aussi au tourisme qui fait qu'il y a beaucoup d'Airbnb aussi. Enfin, c'est ce qui se pose dans d'autres villes. Barcelone, on en parlait aussi. Et qui fait que le surtourisme fait aussi que, y a des logements qui ne sont plus disponibles et qui sont plutôt consacrés à ça. Qui fait que ça fait que augmenter le loyer. Et effectivement, oui, enfin, pour en parler avec des Budapestois et des Budapestoises, c'est assez compliqué aujourd'hui de se loger à Budapest.
On parle de plus en plus de gentrification de Budapest. C'est aussi sur ce programme écologique d'abord et social aussi que le maire de Budapest a été réélu en 2024. Alors avec un score moindre, 47,53%, seulement 324 voix d'écart avec le maire soutenu par le Fidesz. Est-ce que on peut dans le détail expliquer ce qui s'était passé, Ambre Brunotto, à l'époque?
Oui, c'était une élection qui était particulièrement serrée et qui du coup contrebalançait quand même beaucoup avec l'élection de 2019. Et là, en 2024, les résultats ont été contestés parce que 324 voix d'écart, c'est quand même un mouchoir de poche. Ça a été contesté notamment par le Fidesz. Et c'était une élection qui avait été un peu compliquée parce que la candidate qui était présentée par le Fidesz initialement s'est retirée de la course un peu à la dernière minute pour essayer que le report des voix permette à un candidat plus ou moins indépendant, d'essayer de gagner l'élection. Mais il se trouve que finalement, c'est Gergely Karácsony qui a remporté l'élection et qui mène son mandat, mais avec beaucoup de peine quand même, notamment dû au fait qu'il n'est plus majoritaire dans son assemblée. Donc ça pose aussi des questions pour renégocier à chaque fois des projets et essayer de trouver des accords constamment.
Cette réélection de 2024 avait été compliquée. Il avait fallu recompter les milliers de bulletins nuls, près de 25 000 bulletins nuls de Budapestois qui manifestement témoignaient ainsi d'une forme de colère qu'ils avaient de voir ces sortes de manigances politiques juste avant le scrutin, puisqu'in extremis, le Fidesz, le parti de Viktor Orban, avait soutenu un candidat, David Vitesi, par ailleurs ancien patron des transports publics de la ville, parce que le Fidesz s'était rendu compte que la candidate qu'il avait choisie n'avait aucune chance de remporter l'élection. Les règles électorales aussi avaient été modifiées quelques mois avant les élections, donc il s'était passé beaucoup de choses avant cette réélection de 2024 qui avait finalement été obtenue de haute lutte et qui était par ailleurs, Paul Gradvol, en décalage avec les scores du Fidesz dans toute la Hongrie 2 ans plus tôt, les élections législatives au cours desquelles le parti de Viktor Orban avait remporté 54% des voix. Donc ça confirme ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y a Budapest et le reste de la Hongrie.
Et oui, et ça s'est confirmé une fois de plus. Et c'est la politique d'Orban qui d'ailleurs a accentué cette différence. D'une certaine façon, je dirais, pour que ça parle peut-être à nos auditeurs français, que la politique d'Orban est intéressante parce que ces derniers temps, il a établi une espèce de Versailles à lui, non loin de son village d'origine, à Rotvanpustor. Il a développé des actions comme ça pour montrer que bon, Budapest c'était bien, mais la province c'était encore mieux. Et d'autre part, il a complètement transformé, et je présume qu'on y reviendra, la vie à Budapest pour favoriser Bouddha, autrement dit les collines, là où il y avait l'ancien château.
Bouddha, le château, le quartier du château.
Le quartier du château, qu'il se réapproprie et dont il a chassé tous ces gens qu'il déteste, à savoir les intellectuels. Et ça, c'est très très frappant, c'est-à-dire qu'il y a un message extrêmement fort qui rappelle des choses qui historiquement sont bien connues. Quand Horthy a repris la ville, il y est entré sur un cheval blanc le 16 novembre 1919, après la Révolution donc, et il a immédiatement accusé les Budapestois d'être des gens sans foi nationale et que c'était affirmer que c'était la province, le vrai pays. Bref, une version hongroise de la terre ne ment pas, déjà, en 1919. Et c'était Budapest qui devait en payer le prix. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque la politique, et je pense que ma collègue Ambre Brunto vous en donnera maintes preuves, la politique actuelle, c'est l'assèchement des ressources de la capitale et les prélèvements qui y sont faits partent dans des lieux privilégiés par le pouvoir.
Cette taxe Ambre Brunto qui s'inscrit dans cette rhétorique du Fidesz que vient de nous rappeler Paul Gradvol, cette rhétorique d'une vraie Hongrie rurale qu'il conviendrait de refinancer par souci de justice sociale par rapport aux grandes métropoles riches et internationalisées, qui est par ailleurs un discours qu'on peut entendre et comprendre, mais c'est ce qui a donc favorisé la mise en place en 2017 d'une taxe de solidarité. Comment cette taxe aujourd'hui pèse sur les finances publiques de Budapest?
Particulièrement, vraiment. La taxe de solidarité, quand elle a été mise en place, même Budapest, c'était les premiers à dire que cette taxe était importante en termes de péréquation pour que les villes puissent fonctionner. En revanche, le moment où il y a un basculement, en fait, c'est le moment où l'opposition gagne et donc du coup, l'arrivée au pouvoir de Gergely Kolácsony, et on voit que la taxe de solidarité en 2017 et en 2018, où l'ancien maire était proche du Fidesz, était autour de 5 milliards de forints. Aujourd'hui, en 2025, elle était à 89 milliards de forints, et là, le dernier décret du gouvernement demande 98 milliards de forints.
En millions d'euros, c'est 250 quasiment.
Exactement, ça fait 250 millions d'euros, ce qui est énorme pour la ville, ce qui fait qu'elle est même contributrice nette en fait au budget du gouvernement. Et donc, à partir de là, c'est un assèchement absolument total. C'est le prix de l'opposition, pour faire un jeu de mots, que paye Budapest et qui, en parallèle, l'État, en plus de ça, baisse sa dotation. Et joue sur d'autres leviers financiers qu'elle a, c'est-à-dire la taxe professionnelle qu'elle a aussi réformée pendant le Covid pour continuer d'assécher les finances publiques. Et là, la mairie aujourd'hui est endettée et ne va pas payer ses factures d'électricité pour l'instant puisqu'elle n'a pas de recettes pour le faire.
La viabilité de la ville est en danger et je pense que c'est un risque terrible, non seulement pour Budapest, mais aussi pour tout le pays. Le gouvernement s'est engagé, au moins dans ses déclarations, à ce que la viabilité de la ville ne soit pas menacée. Il faut que cette promesse soit tenue. Nous sommes maintenant assez nombreux pour faire entendre notre voix.
Gergely Kolácsony, le maire de Budapest en décembre dernier. Paul Gradvol, aujourd'hui le parti de Viktor Orban ou le gouvernement de Viktor Orban explique que la municipalité de Budapest est une mauvaise gestionnaire, que tout ça finalement ne relève d'une incompatibilité des fonctions de maire et d'un maire qui serait un très mauvais gestionnaire et qui aurait dilapidé l'argent public. C'est l'occasion idoine. Qu'est-ce qui relève en fait de la mauvaise gestion? Qu'est-ce qui relève vraiment d'un processus politique très opaque par ailleurs, de la mise en place de cette taxe de solidarité?
Alors, première chose, comme Ambre Brunto l'a dit, Les chiffres parlent de façon très très claire. Si on augmente votre taux d'imposition et donc le taux de prélèvement qu'on a sur vos ressources et qu'on diminue l'attribution des fonds publics, la question de la qualité du gestionnaire est quand même extrêmement secondaire. Si un jour vous avez 10 euros dans votre poche et le lendemain il y en a 7 et qu'on vous demande de faire plus avec ces 7 euros en période d'inflation, tout ça est simplement ridicule. Et ce qui est peut-être passionnant pour comprendre la perception des Hongrois, c'est que parallèlement, le degré de corruption du pouvoir de Orbán, et notamment ses manifestations à Budapest, est absolument incroyable. Je pense qu'un jour, si vous avez l'occasion de visiter avec Ambre la ville de Budapest et que vous passez devant les hôtels, les principaux hôtels de la ville, elle pourra gentiment vous dire quasiment à chaque fois, ça appartient à la famille Orbán. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé sur les 10 dernières années. Si vous allez sur le château et que vous regardez à qui appartiennent les biens immobiliers, il y a depuis 10 ans des transferts de titres de propriété qui sont passionnants et à chaque fois, ils ont une coloration politique.
Alors que donc, ça, vos démonstrations, Paul Gradvol, c'est de dire que finalement ce qui intéresse davantage les Hongrois et surtout les Budapestois, en tout cas ceux qui sont attachés à une forme d'indépendance de leur municipalité, c'est plutôt tout ce qui concerne la corruption à laquelle est fortement lié le gouvernement, plutôt qu'une soi-disant mauvaise gestion par la municipalité des fonds publics.
Alors, en partie oui, en même temps les Budapestois sont frappés par une chose, c'est le fait que la municipalité ne peut pas assurer même la propreté de la ville. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est là-dessus qu'essaye de jouer Orbán, en disant, bah, vous voyez, s'ils savent pas nettoyer, ils sont vraiment des incapables. L'affaire est bien sûr extrêmement complexe, la chose qui sauve bien sûr Karácsony, c'est le fait que eh bien, en fait, tous les services publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, sont dans un état terrible. Et un des éléments principaux éléments de la campagne de notre Péter Magyar, c'est les hôpitaux et les services sociaux à l'enfance, où il y a eu des scandales absolument majeurs de pédophilie en plus. Eh bien, partout, on voit la main de cette corruption. Donc il est très très difficile de faire croire que la municipalité de Budapest devrait être une espèce d'îlot d'efficacité dans un système qui en connaît très peu.
Ambre Brunetot, pourquoi la municipalité aujourd'hui de Budapest refuse, ou en tout cas dit qu'elle n'est pas capable, pas en mesure d'assurer le nettoyage de la ville, le ramassage des déchets, j'imagine, et autres, et ce qui nous permet aussi de faire un point sur le degré d'autonomie des municipalités et ce qui relève de leurs compétences et ce qui relève des compétences du gouvernement.
Oui, et ben Paul Gradvol parlait à l'instant des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est typiquement une des compétences qui a été retirée au début des années 2010, des municipalités, pour être gérées par une nouvelle instance qui a été mise en place à partir de 2013, qui s'appelle le Bureau gouvernemental des comtés et des districts, ce qui correspond plus ou moins à nos préfectures et nos sous-préfectures en France. Et c'est quelque chose qu'il faut remettre dans un panorama un peu plus large de... dans les années 90, on a une phase de municipalisation radicale où les mairies... en fait, dans la période de transition, vont être particulièrement revalorisées, que ce soit en termes d'indépendance financière, que ce soit en termes de compétences. Elles ont une clause de compétences générale, elles s'occupent de l'école, des hôpitaux, de tout ce qu'on peut imaginer, des routes, etc. Mais c'est une phase où, le problème étant qu'il y a plus de la moitié des communes en Hongrie qui ont moins de 1000 habitants. Donc en termes de ressources financières, ça a créé de nombreux problèmes, notamment en termes de dettes, avec derrière la crise de 2008 qui est arrivée. Ça a massivement endetté les collectivités. Et donc, c'est à ce moment-là que Orbán arrive au pouvoir, en 2010, et va donc, en fait, trouver un terreau particulièrement fertile pour engager une réforme et donc retirer les compétences dans son discours toujours d'efficacité qui continue à tenir de bonne gestion, en fait, qui devrait revenir plutôt à l'État plutôt que les collectivités, puisque ben, elles ne sont pas en mesure de le faire au vu de l'état de leurs finances publiques. Et donc, c'est le cas des hôpitaux, de l'école, primaire et secondaire. C'est le cas... en matière d'urbanisme aussi, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre comme quelque chose de très diffus et très dilué dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas un moment où il y a toutes les compétences qui sont retirées d'un coup, c'est l'année dernière encore, ou l'année d'avant, il y avait des compétences qui continuaient d'être retirées par-ci par-là, notamment en termes de maisons de santé et de plans local d'urbanisme, qui continuaient d'être retirées continuellement.
Donc, à la fois des compétences en moins et beaucoup, beaucoup d'argent en moins, cette taxe de solidarité dont vous nous disiez les chiffres faramineux, les nombres faramineux qu'elle avait atteints ces dernières années. Elle a été multipliée par 9, je crois. En
18.
18, elle
18
a été multipliée
2000,
par 18.
Entre 2018 et 2026.
Donc, la municipalité a d'ailleurs porté l'affaire en justice et l'a gagnée. Est-ce que, déjà, Paul Gradevol, ça veut dire que toute la justice hongroise n'est pas aux ordres du gouvernement? Je ne sais pas auprès de quel tribunal elle avait porté cette affaire. Et surtout, est-ce que cette reconnaissance par la justice a signifié remboursement de l'argent du manque à gagner?
Alors, pour répondre à la dernière question, que je sache, absolument pas. Je ne suis même pas sûr que le gouvernement ait décidé de pleinement appliquer la décision de justice, en tout cas avant les élections. Ça m'étonnerait beaucoup. Quant à la question de savoir si la justice hongroise est complètement soumise ou pas, elle l'est de plus en plus. Et les juges qui résistent sont gentiment peu à peu éliminés. Mais jusqu'à présent, Orban n'était pas pressé. Il se voyait là pour encore 30 ans. Donc, il n'était pas dans l'urgence que connaît Trump.
La justice qui doit par ailleurs faire appliquer la loi, or ces lois sont de plus en plus dures vis-à-vis des municipalités. Encore en décembre dernier, le Parlement hongrois a voté une nouvelle loi sur le financement. Alors si j'ai bien compris, pas des municipalités en général, mais bien de celle de Budapest en particulier, selon laquelle la mairie peut solliciter un crédit auprès de la Banque hongroise de développement si elle ne réussit pas à verser à ses fonctionnaires leur traitement mensuel. Sauf que ces prêts sont assortis de conditions et de modalités fixées par le gouvernement. C'est ça, Ambre Brunotto?
Oui, c'était le plan de sauvetage de la capitale qui a été voté en décembre. Et que, je préfère le préciser tout de suite, que le maire a dit qu'il ne l'utiliserait pas, puisque pour lui c'était un espèce de système de chantage dû aux conditions que vous évoquez.
Il préfère se débrouiller tout seul que de contracter un prêt auprès de cette banque hongroise de développement.
Tout à fait. Je pense qu'il essaiera toutes les autres options sur la table, plutôt que, notamment parce que s'il ne remplit pas les conditions qui sont celles du plan de sauvetage, il y a un risque que... parce qu'en gros, ça pourrait être considéré comme un délit et donc il y a cette possibilité d'emprisonnement quand même pour la personne responsable de la collectivité, donc le maire de Budapest. Et donc ça reste quand même des gros enjeux pour la mairie.
La loi oblige le maire à présenter alors divers documents financiers et puis à réaliser des réformes dans les 6 mois, à partir du moment où il contracte ce prêt, sous peine d'être condamné en effet à 2 ans de prison. Alors, si j'ai bien compris cette loi, les services administratifs de la ville peuvent aussi l'obliger à contracter un prêt. Est-ce que ça veut dire que les services administratifs de la ville ne sont pas politiques, ne dépendent pas directement du parti du maire en place?
C'est pas exactement ça. Donc c'est cette instance qui s'appelle le bureau gouvernemental du district, qui en fait est un prolongement de l'État à l'échelle locale.
Ce que vous me disiez tout à l'heure, l'équivalent d'une préfecture.
Exactement, okay. Ça serait ça, cette sous-préfecture qu'on va dire, qui est donc à Budapest. Et en fait, donc cette qui s'appelle on va dire le préfet pour essayer de simplifier et pour permettre une bonne compréhension, qui s'appelle Chola Bontond, peut donc, s'il voit que l'état des finances de Budapest ne permet pas le versement des salaires à l'ensemble des 27 000 quand même employés de la capitale, ce qui est quand même assez conséquent, il peut lui-même déclencher ce plan de sauvetage.
27 000 employés?
Oui.
Est-ce que, d'ailleurs, Paul Gradevol, la forme de décalage dont vous nous parliez tout à l'heure entre Budapest et le reste de la Hongrie, est-ce que ce décalage se ressent aussi jusque dans le parcours et le profil, entre guillemets, des employés de la municipalité de Budapest? Est-ce aussi en cela qu'on dit cette ville plus ouverte sur le monde, plus diplômée?
Alors, je ne connais pas précisément la sociologie des employés de la municipalité. Je sais qu'elle a une série d'institutions culturelles qui effectivement réussissent à maintenir une certaine pluralité culturelle dans le pays, alors que toutes les institutions d'État exigent grosso modo que les dirigeants et les gens qui y sont aient quasiment une carte au FIDES. Pour le reste, c'est un peu difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que depuis des années, parce que ça, j'ai des connaissances, Si on veut faire carrière et gagner de l'argent, on n'a aucun intérêt à travailler pour la municipalité de Budapest ou par une autre municipalité. Les seuls gens qui gagnent de l'argent dans les vies municipales sont les gens qui ont des contacts avec les commandes publiques. Et dans le cas de Budapest, il y a eu quelques petites affaires de corruption, mais tous les marchés sont tellement scrutés que c'est un endroit un peu compliqué pour des hommes politiques d'opposition pour faire des affaires. D'ailleurs, contrairement aux proches de Orban, les proches de M. Gergely, Korachoin n'ont pas l'air d'être devenus milliardaires.
Parmi tous ces projets et grands chantiers lancés par l'État à Budapest et qui semblent enrichir dans un premier temps les proches de Viktor Orban, on peut peut-être rentrer dans certains détails, mais donc la construction de certains projets est vraiment devenue une compétence de l'État à Budapest, en Brunto. Et parmi ces projets, il y a celui qui concerne un quartier de la capitale qui s'appelle le quartier de la gare de Rákosrend des Œufs, si j'espère bien le dire. Ouais, c'est dans le nord-est de Budapest. Ça s'appelle, pareil, je dis aux auditeurs qui peuvent s'y intéresser, Rákosrend des Œufs. Bref. Bon, en tout cas, c'est ce quartier qui est dans le nord-est de Budapest. À quoi doit ressembler ce nouveau quartier si des plans ont déjà été présentés, notamment aux riverains, à moins que ça ne soit même pas un sujet aujourd'hui en Hongrie, que de dire aux riverains, voilà ce qui peut vous attendre et éventuellement discutons-en ensemble.
Oui, le projet de Rákosrend des Œufs, ça a été présenté par d'abord le gouvernement fin 2023 comme ce qu'ils ont appelé leur projet mini Dubaï, donc c'est-à-dire des grandes tours, des grands buildings qu'ils auraient installés là. Et ça a été donc c'est un terrain qui appartenait à la base à l'État. À partir du moment où l'État a mis en vente ce terrain, la municipalité s'est rendue compte qu'elle pouvait faire valoir son droit de préemption. Et donc, récupérer ce terrain pour proposer un contre-projet, et toujours dans cette logique de contre-modèle dans lequel s'inscrit la capitale, essayer de proposer quelque chose où on pourrait avoir des logements sociaux, avoir des jardins, avoir un espace beaucoup plus vert que 5 barres d'immeubles. Et donc, il y a eu tout un conflit autour de ce droit de préemption qui a notamment opposé le ministère de la Construction à Korachoin, et la mairie a donc pu faire valoir ce droit de préemption et aujourd'hui a récupéré du coup ce terrain et est en train de... Enfin, il y a justement le concours justement pour la direction de ce projet-là qui est en train d'être fini là dans les prochains jours. Donc on en saura plus à ce moment-là.
C'est vrai que le projet ne figurait déjà plus il y a quelques mois sur le site du promoteur Eagle Hills. Et Courrier International l'avait remarqué en supposant que ce projet avait été abandonné. Paul Gradvol.
Oui, je voudrais rappeler qu'il y a un projet précédent, qu'on oublie bien sûr, c'est celui autour de l'université chinoise de Fudan, ouais, dans un autre quartier de Budapest, au sud de Budapest. Qui a duré quand même de 2016 à 2021-22, où le gouvernement hongrois avait décidé d'implanter cette université qui a pour caractéristique de former une bonne partie des... et de dépendre très 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 directement du comité central du Parti communiste chinois. Et donc, cette université devait servir de modèle à toutes les universités hongroises, et finalement, à la suite de diverses aléas, dont la résistance de la municipalité, eh bien, et du fait que la population hongroise était assez peu enthousiaste à l'idée de recevoir ce modèle venu de l'Est, le gouvernement hongrois a fini par abandonner ce projet. Et c'est une de ses spécialités que d'annoncer des grands projets et que d'y reculer. Ça va si loin qu'aujourd'hui, personne ne sait ce qui va vraiment en être de la deuxième tranche de la centrale nucléaire hongroise. Et ça fait des décennies que ça dure sous autorité depuis que M. Orban est revenu au pouvoir.
Mais le gouvernement, à chaque fois, pour ses projets, rétorque que ce sont des projets strictement, disons, économiques, qu'en tout cas, ils doivent soutenir l'économie, ils doivent créer des milliers d'emplois, dans la construction notamment, et ensuite l'exploitation des lieux, que ce sont des projets qui vont augmenter la valeur des biens immobiliers. C'est toujours comme ça, en Brunetto, que l'État, enfin le gouvernement hongrois, et qui se confond avec l'État aujourd'hui, présente ces projets qui concernent directement la capitale.
Oui, et puis là, pour le coup, que ce soit pour, enfin, en particulier pour le cas de Rákosrend des Œufs, c'est aussi un argumentaire enfin, qui se construit autour du fait de cet argument de mauvaise gestion dont on parlait tout à l'heure, de toute façon, la capitale n'est pas en mesure de mener ce genre de projet. Elle n'a pas les moyens financiers de pouvoir monter comme ça un projet avec des logements sociaux, avec des parcs, etc. Donc, ça permet à la fois d'avoir cet argumentaire très économique, très financier, qui permet aussi de dépolitiser complètement la question, autour de ça va permettre de créer des emplois, et de toute façon, la capitale n'est pas en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit, ce mauvais gestionnaire ne pourra pas prendre le relais.
Et donc, c'est une façon de dire, néanmoins, mes pauvres, à Budapest, vous n'avez rien compris, la capitale est décidément bien déconnectée des réalités de ce monde, parce que nous, on vous propose des projets qui vont rapporter de l'argent, et vous n'en vivrez que mieux. Paul Gradvol, c'est un petit peu le débat autour de la marge des fiertés, qu'une question vraiment sociétale qui concerne la liberté qu'on laisse ou non aux LGBT, en l'occurrence en Hongrie, pas du tout, de vivre leur amour comme ils l'entendent. Ce débat autour de la marge des fiertés, est-ce qu'il est un peu du même ordre, présenté par Orban comme la preuve de la déconnexion des Budapestois ?
Comment dire, hein ? Toutes les critiques visent à priver la capitale et sa municipalité d'une image de respect des traditions hongroises et de capacité intellectuelle. C'est donc instaurer un mépris permanent. Et c'est une, faut pas oublier une chose dont on n'a pas l'habitude en France à ce point-là. Et je présume que si Ambre a été à Budapest récemment, elle a marqué. C'est une ville où toutes les campagnes menées par le gouvernement hongrois, et elles sont quasi permanentes, transforment l'image visuelle qu'on a, ne serait-ce qu'en se promenant, parce qu'il y a des affiches partout, et des affiches politiques, et des affiches qui sont extrêmement dures. Donc, ce qui est frappant, c'est que d'un côté, on avait des centaines de milliers de gens dans la rue pour les fiertés LGBT, et à côté de ça, il y a un discours d'une violence absolument incroyable, où grosso modo, on accuse tous ces gens de vouloir tuer la Hongrie. Et c'est systématique. Je crois qu'on a du mal à percevoir en France ce que c'est que l'expérience d'un Hongrois qui regarde tout bêtement une chaîne publique de télévision. C'est-à-dire que tout ce que nous disons ici, ça se traduit pour un Hongrois qui regarde la télévision par un discours où il n'y a qu'un seul côté, et qui est une suite presque d'insultes pour les gens qui ne votent pas pour la Fidesz. Nous sommes à la veille d'élections, ça se renforce.
Ça se polarise, non, puisque le discours médiatique, à vous entendre, est aujourd'hui totalement dominé par le Fidesz, le parti au pouvoir, et un maire à Budapest qui, comme d'autres dans l'opposition, essaye justement de regarder de l'autre côté, puisque vous dites que tout est tourné d'un côté aujourd'hui. Certains se tournent vers l'Europe pour dire, regardez, nous on défend certaines valeurs et il faut nous aider.
Nous ne demandons pas à l'Europe de prendre parti dans nos débats politiques nationaux. En revanche, nous devons nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons avec un gouvernement qui bloque la mise en place des politiques européennes et qui préfère les polémiques délétères aux débats constructifs, alors qu'il existe de nombreuses villes qui partagent les valeurs et les objectifs de l'Union européenne. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle soutient ses ennemis plutôt que ses alliés.
Le maire de Budapest, Ambre Brunto, depuis que sa ville, la capitale hongroise, a été privée d'une partie de ses ressources, est-ce qu'elle a trouvé des alternatives pour se financer, notamment auprès de l'Union européenne ?
Oui, complètement. Il y a un renforcement d'un tandem entre le local et l'Union européenne qui passe par... D'abord une professionnalisation de la diplomatie urbaine, hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans ce service-là. Il y a aussi une espèce d'antenne qui est le bureau de représentation de Budapest à Bruxelles, qui permet donc à la municipalité d'aller directement faire du lobbying auprès de la commission en particulier, et qui a permis à la ville de récupérer quand même certaines enveloppes pour développer certains projets, notamment financer des bus électriques ou des nouvelles lignes de tramway. Donc oui, elle a trouvé quelques astuces pour contourner le gouvernement.
Et elle forme aussi, avec les autres capitales des pays du groupe de Visegrad, Bratislava, Prague et Varsovie, une alliance des villes libres, comme elle s'appelle. Et ça a plus de poids auprès de l'Union européenne pour trouver des financements.
Oui, je pense que c'était ce pacte des villes libres donc, qui a été lancé en 2019 à l'initiative donc, d'un appel de Kolacheng. C'était un moyen de visibiliser les situations dans lesquelles les quatre capitales se trouvaient à ce moment-là. C'est quand même un pacte qui est plus symbolique qu'effectif dans la réalité, mais ça leur permet effectivement d'avoir plus de poids dans les négociations.
Et en attendant, ces villes doivent se battre pour préserver leurs prérogatives en tant que municipalité pleinement construite. Et ça passe aussi par la lutte pour le patrimoine. On en parle juste après cette chanson hongroise qui date de 2023 par un groupe hongrois, Carson Coma. Le groupe hongrois Carson Coma, qui dans cette chanson qui date de 2023, dit au gouvernement, s'adresse directement au gouvernement de Viktor Orban, vous criez votre vérité dans un mégaphone. Vous écoutez Culture Monde, on poursuit notre série commencée en janvier sur les villes contre les États dans le contexte en France des élections municipales. Aujourd'hui à Budapest en Hongrie, un maire qui casse les codes de l'urbanisme, Gergely Karácsony, qui s'oppose à Viktor Orban et aux assauts de l'État contre la municipalité. Cela concerne aussi le patrimoine.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est constituée selon de nombreux critères qui permettent de mesurer la valeur d'un lieu au niveau mondial. Ce serait très mauvais que Budapest soit sorti de la liste. Ce serait synonyme d'une perte de prestige pour la ville. Et en même temps, normalement, il faut obligatoirement présenter des plans à l'UNESCO. Budapest ne l'a pas fait.
C'est l'architecte en chef de Budapest qui s'inquiète ici de ce qu'il peut advenir du patrimoine de Budapest que le gouvernement, Viktor Orban, entend remettre en valeur mais sans consulter la municipalité, d'où l'accusation d'une entreprise éminemment politique. Bonjour Gábor Hola.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en études urbaines et en histoire à l'EHESS, chercheur post-doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D'abord, de quel patrimoine parle-t-on qui serait devenu un enjeu politique entre la municipalité de Budapest et le gouvernement hongrois? Quels édifices en particulier?
Depuis le début des années 2010, on peut peut-être se concentrer sur trois projets d'envergure pilotés par le gouvernement qui symbolisent cette emprise de cette hégémonie symbolique sur la ville. C'est la reconstruction de Château de Bouddha et le quartier de Château de Bouddha. l'aménagement et la rénovation des bâtiments de la place Kossuth, qui est la place du Parlement, et le nouveau quartier des musées qui est installé dans la parc de la ville. Mais juste avant de rentrer en détail de ces projets, j'aimerais bien revenir sur l'affaiblissement progressif du contrôle sur le patrimoine en général au niveau national. En général, face aux volontés politiques et face aux volontés économiques. Donc, cet affaiblissement, c'est à la fois systématique. Donc, il y a la suppression des institutions indépendantes de protection de patrimoine. Il y a des transferts de compétences vers les instances préfectorales et ministérielles. Et ici, une montée de contrôle architectural par la politique. Et l'autre côté, il y a des mesures plutôt ad hoc. C'est des réorganisations constantes de cette institutionnelle de protection de patrimoine et les législations ad hoc. Donc, par rapport à cette législation, on voit la nombre croissant des projets prioritaires pour le gouvernement qui peut possiblement soulever toutes les contraintes locales, toutes les réglementations locales. Donc, ça réduit fortement la marge de manœuvre de la municipalité aussi.
Ce sont des projets qui ont démarré avant l'élection à la mairie du maire actuel ?
Oui, exactement.
Donc, avant que Budapest soit vraiment une ville d'opposition, il y avait une volonté déjà du gouvernement de restaurer, en fait, c'est ça, des lieux de patrimoine, mais selon un peu en dépit du bon sens. Enfin, quel est en fait l'objet de la colère aujourd'hui de la mairie de Budapest sur ces projets de rénovation et tout ce qui concerne le patrimoine ?
Donc, le conflit s'était plutôt articulé autour du projet de parc de la ville. Donc, on voit en fait un mouvement social, une contestation sociale par rapport à ce projet.
Le parc Városliget, c'est ça, un parc
Oui, Városliget, donc c'est le parc de la ville qui est un des plus anciens parcs publics en Europe. Et donc, les militants écologistes qui sont contestés de tout début de ce projet, parce que c'est engendré des artificialisations importantes de cet terrain végétalisé, l'implantation de l'institution culturelle d'envergure dans le parc. Donc c'est un changement complet de fonction de ce parc de récréation à un lieu touristique et culturel.
Au départ, pardon, les mobilisations viennent vraiment des riverains, de la société civile, et le flambeau est repris par la municipalité en 2019.
Oui, exactement. Donc, avec l'arrivée de Gerga Corachon à la mairie en 2019, c'est une contestation symbolique aussi entre le gouvernement et la mairie. Mais après, ce qu'on a vu, que comme c'était un projet prioritaire pour le gouvernement, donc il y avait une petite bataille de réglementation. Donc la mairie voulait imposer des nouvelles réglementations pour empêcher la construction de certains bâtiments. Mais après, en fait, avec cette possibilité de lever les réglementations locales, le gouvernement pouvait toujours contourner ces réglementations locales. Donc, le seul outil dans les mains de la mairie, c'était plutôt ralentir les processus par cette bataille un petit peu juridique et légale. Et gagner du temps. Et par exemple, donc maintenant le projet est un petit peu en attente. Donc on a déjà construit quelques bâtiments, mais le projet principal de déménager la galerie nationale de Château de Bouddha à Városliget, à parc de la ville. Et maintenant, ce projet en attente. Donc, ce que je connais, c'est déjà les permis de construire déjà actifs, donc c'est déjà validé. Mais il manque peut-être le budget pour ce projet.
Donc il y a ce qui concerne vraiment des projets urbains, raser un parc, un immense parc pour des projets de construction, mais surtout le patrimoine en tant que tel. Est-ce que parmi aujourd'hui les bâtiments ou les lieux qui posent problème et qui créent des débats entre la municipalité et le gouvernement, il y en a qui sont classés à l'UNESCO? Quelle question politique pose la rénovation de ce patrimoine, non pas par la municipalité, mais par l'État?
Donc peut-être le projet le plus symbolique par rapport à ça, c'est le projet de reconstruction dans le quartier de Château de Bouddha. Donc c'est l'ancien palais royal et les quartiers environ. Cette opération extrêmement coûteuse. Donc il y a des reconstructions des bâtiments démolis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'identique, en utilisant les techniques contemporaines, donc béton armé, après le revêtement, c'est revêtement sur la façade, c'est ça imite, ça en fait c'est identique à l'original. Donc on voit aussi l'opération de façadisme. Donc derrière la façade, on démolit le bâtiment, on reconstruit un tout nouveau bâtiment et on garde la façade. Et aussi on voit les constructions de cils qui imitent les bâtiments voisins. Donc c'est ces opérations qui est en cours depuis 2017 plutôt. Engendre aussi la démolition des bâtiments modernistes de régime communiste. Donc l'idée derrière, l'objectif derrière, c'est aussi la réécriture de l'histoire, réécriture de la narrative nationale. Donc on corrige, on répare les erreurs commises par le régime communiste.
Et l'UNESCO peut rien faire à ce sujet? Elle avait mis à un moment, l'institution avait mis certains bâtiments sur la liste du patrimoine en péril et a finalement retiré ces bâtiments de la liste l'année dernière. Pourquoi?
Je veux juste apporter une petite précision. C'était pas retiré, c'était juste ce site a risqué d'être sur la liste de patrimoine mondial en péril, mais c'était jamais en fait listé sur cette liste. Donc à partir de 2019, il y a un contrôle plus étroit de la part de l'UNESCO. Et donc pour chaque réunion de l'UNESCO, c'était évoqué comme une possibilité de mettre sur cette liste de patrimoine mondial en péril. Mais c'était toujours le site à éviter de la décision. Et donc, en 2025, c'était retiré de l'agenda de mettre sur cette liste.
Le centre-ville de Budapest est classé au patrimoine mondial depuis 1987. Mais, oui. Mais la question est aussi de savoir, Gab Borola, si un bâtiment classé n'est pas directement concerné par une rénovation hasardeuse, mais que des projets urbains modifient sérieusement la vue qu'on a depuis ces bâtiments. Alors est-ce que l'UNESCO peut agir? Parce que la question se pose à Budapest où des gratte-ciels sont érigés depuis quelques années et qui modifient l'urbanisme.
Effectivement, le site de Budapest est un petit peu particulier parce que c'est le valeur universelle qui est sauvegardée. C'est en fait c'est le panorama de Budapest, panorama de rive de Danube. Et donc, il y avait un projet prioritaire pour le gouvernement, c'est le Tour de Mol, qui est l'entreprise pétrolière numéro un de pays. Et donc, c'était une des raisons pour laquelle l'UNESCO a commencé en fait cette enquête plus étroite, les missions de surveillance plus fermé. Mais après, en 2025, l'UNESCO possiblement a vu en fait un avancement par rapport à ça.
Cette entreprise Mol, pardon, on arrive à la fin de cet entretien, je suis désolée Gaborola, mais cette entreprise dont la tour s'érige à 120 mètres de haut sur les bords du Danube, et c'est cette entreprise pétrolière nationale qu'on a évoquée rapidement la semaine dernière qui n'applique pas les sanctions vis-à-vis de la Russie par ailleurs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Vous êtes docteur en études urbaines et en histoire à l'EHESS. Merci à nos invités Ambre Bruneteau, doctorante en sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, ainsi que Paul Gradevol, professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Bonne d'avoir été avec nous et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Cette semaine, c'est vous, Mathilde Romagnon, qui nous présentez la revue de presse internationale. consacrée aujourd'hui aux frappes américano-israéliennes en Iran et à la riposte de Téhéran. Et vous commencez avec les journaux des pays du Golfe.
Avec le quotidien émirati Al-Khalij, qui se veut rassurant malgré les frappes iraniennes qui ont fait au moins 2 morts à Abu Dhabi ce week-end. Le ministère de la Défense a déclaré qu'il était prêt à faire face à toute menace, rapporte le journal, après une réunion des dirigeants des 6 États membres du Conseil de coopération du Golfe, Émirats arabes unis donc, mais aussi Arabie saoudite, Koweït, Oman, Qatar et Bahreïn. Dans une déclaration commune, ils disent en appeler à leur droit légal de riposter contre l'Iran si nécessaire. Ce sont principalement des bases militaires et des ambassades américaines qui sont visées. Al-Khalij cite le ministère de la Défense émirati qui affirme avoir intercepté hier 20 de drones et détruit 20 de missiles et rappelle que les Émirats arabes unis ont annoncé la fermeture de leur ambassade à Téhéran. À Bahreïn, le quotidien Akhbar Al-Khalij publie un reportage au cœur des services de secours, ceux qui interviennent auprès des civils en cas de frappe. Une visite dans la salle des opérations de gestion des crises et des catastrophes avec des secouristes mobilisés 24 heures sur 24. Leur capitaine demande aux habitants de rester calmes et de garder leur sang-froid lorsqu'ils entendent la sirène signalant un missile et de se diriger directement vers l'endroit le plus proche. Bahreïn a annoncé ce matin 1 mort dans des frappes iraniennes. Et puis la chaîne d'infos en continu Al Jazeera, basée à Doha, au Qatar, était en édition spéciale toute la nuit avec des reporters en direct de Téhéran, de Tel Aviv, de Bagdad, de Riyad ou encore de Beyrouth. On entend ici une reporter en direct de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Elle évoque le soutien du Hezbollah libanais à l'Iran. Le présentateur la remercie et reprend la parole. Nous attirons l'attention de nos téléspectateurs sur cette nouvelle de dernière minute, dit-il. Ali Larijani déclare que l'Iran ne négociera pas avec les États-Unis. Ali Larijani est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Al Jazeera reste en édition spéciale toute la journée dans ses versions en arabe et en anglais.
En Turquie, cette fois, Mathilde Romagnan, la presse fustige l'impérialisme américain à l'œuvre dans ses frappes.
Le quotidien islamiste pro-gouvernemental Yeni Akit, tout comme le quotidien d'opposition de gauche Birgun, affiche leur soutien à l'Iran et dénonce une attaque impérialiste de la part des Américains, que Birgun qualifie même de barbarie dans un éditorial. Le quotidien d'opposition de gauche accuse Washington de vouloir diviser les peuples pour mieux les contrôler. Yeni Akit accuse de son côté les États-Unis et Israël de, je cite, « répéter en Iran le massacre qu'ils ont commis à Gaza ». La Turquie, qui accueille des milliers d'Iraniens qui ont fui le régime après la répression sanglante des manifestations de contestation du pouvoir ces dernières semaines.
Et plusieurs pays s'inquiètent aussi déjà des conséquences économiques de ce conflit, en particulier sur le cours du pétrole.
C'est le cas des principaux journaux brésiliens, Folha de São Paulo et O Globo. Ce dernier a interviewé des experts qui prévoient, dit le quotidien, une hausse du prix du pétrole ainsi que du dollar et de l'or et d'éventuelles répercussions inflationnistes dans le monde entier. Selon un professeur brésilien d'économie, le baril devrait probablement atteindre les 100 dollars si le conflit continue. Folha de São Paulo précise que le gouvernement brésilien exclut une transition pacifique du régime iranien, comme cela s'est produit au Venezuela. Même inquiétude en Inde, où le Times of India liste les conséquences du conflit sur le commerce, les exportations, l'approvisionnement en pétrole brut. Il évoque le retard des marchandises devant transiter par le golfe Persique, la hausse des frais de transport. Le ministre indien du Commerce a rendez-vous aujourd'hui avec les professionnels du secteur, exportateurs et compagnies maritimes pour évaluer l'impact économique de ces frappes. A noter que la Chine, pourtant premier exportateur mondial, fait très peu cas du conflit en cours. Dans la presse en chinois, la situation en Iran est à peine évoquée et uniquement sur l'aspect diplomatique, Pékin appelant à l'arrêt des combats. On trouve des articles plus nombreux dans la presse chinoise anglophone, en particulier celle de Hong Kong. Le Hong Kong Economic Times évoque la chute de l'indice hongkongais Hang Seng de 700 points à l'ouverture du marché ce matin. Enfin, le quotidien Dawn, journal anglophone au Pakistan, décrypte une image relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un corps sous les décombres d'un bâtiment présenté comme celui du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué avant-hier dans l'opération américano-israélienne. Mais cette image est générée par intelligence artificielle, prévient Dawn. Dans ce flot d'images circulant sur les réseaux sociaux, le travail des journalistes n'est pas que sur le terrain. Il est aussi dans la détection des intox et autres fausses informations qu'on trouve sur Internet.
Merci Mathilde Romagnan.